Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui? OK. Ce matin, c'est sûr que c'est toujours un petit peu, un peu nerveux quand je prends la parole de Dieu, qu'on emmène un message. Puis, un matin, je suis nerveux. On vieillit de le Seigneur, mais on dirait qu'on est toujours nerveux quand on emmène la parole de Dieu. Ce matin, mon thème que j'ai choisi, le titre, c'est actuel. Le titre, c'est aujourd'hui. Pourquoi que j'ai choisi aujourd'hui? C'est aujourd'hui qu'on va regarder dans l'Évangile de Luc. Je méditais un soir dans Luc 23, quand le Seigneur a dit au brigand, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Puis là, j'ai dit « Aujourd'hui », il est écrit aussi dans Luc 2, au début, à la naissance. Fait que là, je me suis mis à méditer sur les passages de la parole de Dieu dans l'Évangile de Luc, avant d'aller plus loin, vous priez. Seigneur notre Dieu, merci de ce privilège qu'on a d'ouvrir ta sainte parole. Quand on ouvre ta parole, Seigneur notre Dieu, on est bien. Parce que ta parole nous enseigne, nous nourrit spirituellement, et on a de la joie dans notre cœur aussi. Puisses-tu ce matin mettre ta main sur nous et sur moi, dirige-moi dans ce message, j'ai besoin de toi, dirige-moi par ton Esprit Saint, et sois avec mes frères et sœurs qui sont à l'écoute, puisses-tu avec eux les bénir, et Seigneur notre Dieu, de toucher leur cœur au travers de ta parole. C'est ton nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qu'on t'en prie. Amen. Afin que, quand je méditais dans Luc 23, le brigand, j'ai dit, je vais aller voir dans l'Évangile de Luc, aujourd'hui, il est écrit de combien de fois? Je suis allé ouvrir ma concordance, je vous pose la question, combien de fois que le mot « aujourd'hui » est écrit dans l'Évangile de Luc? Vous n'avez pas d'idée, hein? Moi non plus, je n'avais pas. 11 fois. 11 fois que c'est écrit dans l'Évangile de Luc. Ce matin, je vais faire un survol de tous les passages qu'on va lire, parce qu'il y a beaucoup de lectures. Dans tous les passages, il y aurait un message par toutes les fois que ce passage-là qu'on lit dans la parole de Dieu. D'ailleurs, j'en ai fait deux sur des versets. Et on va regarder ça ensemble. On va les lire dans Luc 2, les versets 10 et 11. Luc 2, le verset 10 et 11. On va lire le verset 8 aussi pour rentrer dans le contexte, 8 à 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point. » Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est le verset 11 que j'attire l'attention. C'est aujourd'hui dans la ville de David que vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Aujourd'hui dans la ville de David qui est né un sauveur. Une bonne nouvelle que les anges ont annoncée. Ce sauveur avait été annoncé par les prophètes, mais la première fois que ce sauveur a été annoncé, c'est par Dieu lui-même. Quand Adam et Ève ont commis le péché. Dans Genèse 3, 15, que je vais lire, quand Adam et Ève ont désobéi et qui ont commis le péché à la chute, je vais lire le verset, Genèse 3, 15, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dans ce passage-là, on peut voir deux postérités. La postérité de Satan, puis la postérité du Seigneur, celle des croyants. Tu lui blesseras le talon. Le Seigneur va souffrir et donner sa vie en rançon pour le péché. Celle-ci t'écrasera la tête et va détruire l'œuvre du diable. On voit déjà, quand Adam et Ève ont commis le péché, il y a une promesse de rédemption qui est là. Dieu n'a pas laissé Adam et Ève seuls avec son péché, mais il a que promis un rédempteur. Ce rédempteur, ben, un jour, il allait venir. Puis là, ben, on le voit quand dans Luc 2, la naissance de ce rédempteur, le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur la terre. Et on va aller faire un survol sur tous les versets, sur tous les passages, parce que sinon, on va en avoir jusqu'à 2 heures l'après-midi. Donc, ils vont s'endormir. On va y aller plutôt par un survol. Luc 4, le verset 21, qui nous parle aussi de l'amour aujourd'hui. Je vais lire le verset. « Alors, ils commençaient à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » On va lire les versets de 16 à 22 aussi, pour comprendre le contexte. Il se rendit à Nazareth, où il y avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous rendaient un témoignage et étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de la bouche. Ils disaient, « N'est-il pas le fils de Joseph? » Ici, dans ce passage qu'on vient de lire, aujourd'hui est mentionné, mais c'est un passage qui est écrit dans Isaïe. Isaïe 61, les versets 1 et 2. Mais dans ce passage qu'on a lu, on voit que le Seigneur, il n'a pas fait une erreur, là, mais il va lire le verset 2, mais il ne lit pas au complet. Il va lire « Pour publier une année de grâce ». Il n'a pas cité la fin du verset « Le jour de vengeance de notre Dieu ». Ici, c'est volontaire. Le Seigneur ne fait pas d'erreur. Pourquoi il n'a pas cité ce verset-là? Parce qu'à sa première, la fin du verset, parce qu'à sa première venue, ouvrait l'année de grâce de l'Éternel. Mais non le jour de vengeance. Le jour de vengeance se situe à l'époque où le Messie viendra. On peut lire ça dans 2 Thessaloniciens 1, les versets 7 à 10, Isaïe 34, le verset 8, Isaïe 35, le verset 4. Je n'irai pas les lire parce que ça va prendre plus de temps. On va commenter. Ici, ça nous parle du Seigneur Jésus à sa première venue. Le Seigneur, quand il est venu, la première venue, il est venu sauver le monde. Sauver le monde à tous ceux qui croient en lui par la foi. Puis à tous ceux qui croient en lui, en son nom. Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. On peut voir ça aussi dans Jean 8, la Samaritaine. Pas la Samaritaine, la femme adultère. Quand les scribes et les pharisiens l'ont emmené devant le Seigneur, il ne l'a pas condamné. Il est venu pour sauver. C'était la première venue, c'est pour sauver le monde. Puis c'est encore aujourd'hui le temps de grâce pour tout le monde. Il y a de quoi de spécial au verset 20 que je vais relire. Ensuite, il roula le rive, il le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Pourquoi que le Seigneur ici n'a pas resté debout? La coutume voulait que l'enseignant, celui-là qui prenait la parole, se tienne debout dans une position de respect durant l'écriture, durant la lecture de la parole de Dieu. Le Seigneur s'assoit dans une attitude d'humilité pour enseigner. Il prend le temps de s'asseoir. Il fait ça différent dans une attitude d'humilité. Lisez ça dans le commentaire, puis je trouvais ça intéressant. Quand le Seigneur est venu sur la terre, il s'est abaissé. Il s'est abaissé dans l'humilité. On va passer à un autre passage aussi. Il y en a 11. Bien, il y en a 11, il y en a 9, parce qu'il y a deux passages qui, aujourd'hui, revient deux fois. Luc 5, le verset 26. Luc 5, le verset 26. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, et disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » On va lire tout le passage au complet. Luc 5, le verset 17 à 26, ça met le contexte. Pourquoi que c'est écrit? Luc 5, le verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portaient sur un lit un homme qui était paralytique, cherchant à le faire entrer, à le placer sous ses regards. Comme il ne savait par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus connaissait leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lesquelles est plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » À l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, et disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Ici, verset 36, ce n'est pas le Seigneur qui cite le mot aujourd'hui, c'est les personnes qui étaient là. Dans ce passage, on voit sa guérison d'un paralytique. On voit le Seigneur, sa puissance. Il a la puissance de guérir ce paralytique au point de vue physique, mais il y a de quoi de plus merveilleux, de plus grand. Le Seigneur a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Il guérit le paralytique. Verset 24, on voit ça. C'est sur la terre que le Seigneur pardonne le péché. En faisant cela, le Seigneur éprouve quoi? Qu'il est Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, on le voit que c'est Dieu qui pardonne les péchés. La Nouvelle Alliance, on voit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'Ancienne Alliance, bien, c'était... Ça annonçait aussi que les péchés étaient pardonnés en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Ici, le Seigneur est dit au verset... C'est lui qui peut pardonner les péchés, puis il prouve en même temps. Il prouve qu'il est Dieu, il est l'agneau de Dieu, il est le rédempteur. Il prouve aussi en faisant, il guérit la personne, il guérit le paralytique. Pour moi, le Seigneur est en train de leur dire, c'est facile de guérir un paralytique, comme c'est facile de pardonner aux hommes qui viennent à moi avec un cœur repentant. C'est par lui qu'il faut passer. C'est lui seul qui est le sauveur du monde. Puis ici, quand les scribes et les pharisiens étaient tous un peu secoués par ça, parce qu'ils disaient, c'est seulement Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais c'est justement, Dieu était là, le Seigneur, la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu fait homme. Quand on regarde ces versets-là, on voit la puissance de Dieu. Puis c'est sur la terre que les péchés sont pardonnés. Sur la terre, il n'y a plus de pardon. Dans le ciel, il n'y a plus de pardon de péchés. Ceux qui vont rentrer dans le ciel, c'est parce que les péchés ont été pardonnés sur la terre. Ceux qui arrivent devant le Seigneur dans le ciel, les péchés sont pardonnés, sont condamnés pour l'éternité. On va lire un autre verset. On va les lire dans Luc 12, verset 28. On se promène dans la parole de Dieu ce matin. Il y a beaucoup de versets, mais c'est toujours dans le même évangile. Ça fait que c'est pas trop mêlant. Luc 12, verset 28. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous revêtira-t-il pas, gens de peu de foi? On va lire les versets 22 à 32 pour comprendre le contexte. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture et le corps est plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment, ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, Dieu les nourrit. Combien valez-vous plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez même pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent, ils ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses sont les païens du monde qui les fait. Votre Père sait que vous en avez besoin, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous sont données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ici, quand on lit ce passage-là, le Seigneur dit de ne pas s'inquiéter. Puis nous, dans notre... On est des personnes qui s'inquiètent. Ce qui va arriver demain, on s'inquiète pour les... Des fois, ça va-t-il arriver dans nos paiements de maison? C'est toujours des inquiétudes qui sont là. On va être inquiet pour nos enfants quand ils grandissent. Nos petits-enfants, on a toujours des inquiétudes. C'est normal parce qu'on est fait de même. Mais le Seigneur veut qu'on fasse confiance au Seigneur. Quand les enfants, Jonathan et les gars, ils étaient plus dans la vie de jeunesse, mais des fois, ils arrivaient tard, puis on s'inquiétait. On s'inquiétait pour eux autres, mais c'était normal de s'inquiéter. Mais il fallait faire confiance au Seigneur, ne pas s'inquiéter. C'est que ma mère, quand on connaissait, nous autres, on était cinq gars chez nous. Ma mère, elle disait, « J'ai pas dormi beaucoup cette nuit, en fin de semaine. Quand tu arrives à 4 heures du matin, maman ne dormait pas jusqu'à temps qu'on soit arrivés tous. » Elle dit, « Je trouve les nuits longues. » En tant que parent, ben c'est ça. Hein. Ma mère, elle disait ça. « Trouve les nuits longues parce que vous arrivez tard. » C'est inquiet pour nous. Mais nous, en tant que croyants, on connaît le Seigneur, ben, il ne faut pas s'inquiéter. Le Seigneur prend soin de nous. C'est facile à dire, mais notre frère est là, puis on est toujours là à s'inquiéter pour toutes ces choses. Mais le Seigneur nous encourage dans sa parole. Le Seigneur dit, ne pas s'inquiéter, et votre Père sait que vous n'avez besoin de tous les biens matériels. On va aller dans un autre passage aussi, Luc 19. Dans Luc 19, c'est la conversion de Zachée. Il y a deux versets que le mot aujourd'hui est écrit. Je vais déjà emmener un message sur ce passage-là. On va lire le passage au complet, il n'est pas trop long, il y a 10 versets. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort à quelque chose, quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est spécial un petit peu ici. Je vais relire le verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée, dans ce passage-là, on voit qu'il veut voir le Seigneur, mais il était de petite taille. Ça fait qu'il a monté sur un sycomore pour voir le Seigneur, il cherchait à le voir. Le Seigneur, quand il l'a vu, il ne faut pas oublier là, que le Seigneur, il y avait autour du Seigneur une grande foule. Il n'était pas tout seul. Là. Il y avait une grande foule qui suivait le Seigneur. Puis le Seigneur lui dit, « Sachez, aujourd'hui, il faut que... » Que je te rencontre. Nomme son nom. On voit que Sachez descend avec joie. Puis on voit, c'est le Seigneur qui s'invite ici. Ce n'est pas Zachée qui l'invite dans sa maison, c'est le Seigneur qui l'invite, qui s'invite. Puis on voit aussi que le Seigneur prend un temps pour lui. Il y a une grande foule qui sont autour de lui, mais le Seigneur s'arrête et prend un temps pour Zachée. Puis quand, pour nous, quand on est venu au Seigneur, on peut dire qu'il y avait une grande foule autour de nous. notre famille, nos amis, le monde dans lequel on travaille, le Seigneur s'est arrêté pour nous. Il a pris un temps pour nous. Le Seigneur voyait la foi de sa fille. C'est pour ça qu'il s'est invité chez lui. Quand on reçoit la nouvelle naissance dans Jean 3, on devient un enfant de Dieu. Puis à ce moment-là, quand on devient un enfant de Dieu, on est dans les mains du Seigneur. Le Seigneur veut une relation avec nous. On va lire le verset. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. » Le verset 9. Quand on a accepté le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans nos maisons. Premièrement, la parole de Dieu. On peut se rendre un témoignage de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. La parole de Dieu est rentrée dans nos maisons. On s'est mis à lire la parole. On s'est mis à prier. On s'est mis à rencontrer des frères et sœurs. Tout un changement qui s'est fait. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et je rouvre la porte, je rentrerai avec lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Relation personnelle avec le Seigneur. Il parle pour pluriel ici, parle au singulier. C'est sûr que ça s'adresse à Apocalypse, à l'Église, mais on peut le prendre aussi au point de vue. Au point de vue pour nous. Si on le regarde au point de vue spirituel, il y a une autre demeure aussi. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur, c'est quoi que Dieu fait? Il met le Saint-Esprit en nous. Ici, on a lu au verset 7, « Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur. On est des hommes pécheurs. La Bible dit qu'on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais on va lire les deux versets dans Jean 14 et verset 17 et le verset 23. Jean 14, le verset 17. Moi, j'aime ces versets-là. Je vais les lire. Esprit des vérités que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Et le verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est un privilège, frères et sœurs, d'avoir le Saint-Esprit en nous. Nous ferons notre demeure chez lui. Il est venu loger chez un homme pécheur. Quand on est sauvé, si on serait sauvé, on ne commettrait plus aucun péché. Il me semble que ça irait bien. Mais je pense qu'il y aurait de l'orgueil qui sortirait. Le Seigneur n'a pas voulu ça ainsi. Quand on est sauvé, on commet des péchés pareils. Mais, comme on a étudié l'Épître de Jean, 1 Jean 1, le verset 9, et 1 Jean 2, verset 1, nous avons un avocat céleste auprès du Père qui intercède pour nous. Quand on commet un péché, on n'est pas bien, on confesse notre péché au Seigneur, puis là, notre joie revient et notre marche avec lui continue. trouvais ça merveilleux quand je lisais ces passages-là. Que le Seigneur prend soin de nous. Il est présent. Puis quand on s'éloigne, ben, l'avocat se laisse là, puis le Seigneur veut qu'on confesse nos péchés, qu'on continue notre marche avec lui. On va aller à un autre passage, dans Luc 22, toujours dans Luc. Luc 22, ça c'est versets 34 et 61. Je vais trouver mon passage. Jésus lui dit, « Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. » On voit ici, c'est l'apôtre Pierre qui a renié le Seigneur. On va lire les versets 31 à 34. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, que le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies nié trois fois de me connaître. Quand on regarde ces versets-là, le verset 31, là, je me disais, pourquoi que le Seigneur dit « Simon, Simon ». Pourquoi qu'il répète le nom de Simon deux fois? Puis pourquoi qu'il n'a pas appelé Pierre? Parce que c'est le Seigneur qui avait changé le nom de Simon en celui-là de Pierre. Il y a une raison. Parce que Simon, quand il a nommé Simon deux fois, il ramène avant que Simon connaisse le Seigneur Jésus. Le Pierre, Simon, il a parlé par l'affaire. Il a parlé complètement par l'affaire. Fait que le Seigneur le ramène où c'est qu'il était. Simon, Simon. Puis le Seigneur reprochait à Pierre une attitude charnelle caractérisée par un excès de confiance en lui. Il n'a pas parlé au point de vue avec le Saint-Esprit, mais il a parlé par l'affaire. Ici, dans ce passage-là, on voit aussi que Satan est à l'œuvre, verset 31. Puis le Seigneur prie pour Pierre. L'homme peut dire des paroles, mais quand la pression est là, il n'est pas capable de les accomplir. Il n'a pas la capacité de les accomplir. Quand on y va par l'affaire, c'est impossible. Après le Saint-Esprit en nous. Pour nous, c'est un exemple aussi de faire attention à nos paroles, parce que des fois, on peut dire des paroles, ce n'est pas des paroles de sagesse, ce n'est pas des paroles qui viennent de Dieu, mais c'est des paroles qui viennent de l'affaire. Des fois, on ne s'en rend même pas compte, mais on les dit quand même. À faire attention. Le Seigneur Jésus, quand il est allé à la croix, il a tout accompli, tout ce qu'il avait annoncé. On va aller lire dans Luc 18, versets 31 et 34. Jésus prit les douze, Luc 18, verset 31. prit les douze auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verges, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien de cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles, donc ils ne saisissaient pas le sens. Quand le Seigneur a annoncé ça, il fallait qu'il aille à la croix, il fallait qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, qu'il soit mis à mort, qu'il réussisse le troisième jour. Le Seigneur a tout accompli à la perfection. Les dernières paroles à la croix, c'est « Tout est accompli. » Nous, les hommes, on va faire des affaires, des choses. On a un plan A, bon, bien, ça marche. On va modifier le plan A, on a un plan B. Des fois, ça ne marche pas, mais on est rendu au plan C. Mais le Seigneur, lui, il a dit des paroles, puis il a tout accompli. La parole de vérité sortait de sa bouche. C'était la parole même qui parlait. Dans le verset 61 aussi, dans Luc 22, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre, c'est souvent des paroles que le Seigneur avait dites. « Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me renieras trois fois. » Étant sorti, il pleura amèrement. On voit le Seigneur prend le temps de se retourner, mais il ne dit pas un mot. Il regarde seulement Pierre. Ça parlait très fort au cœur de Pierre. Le verset 62, « Étant sorti, il pleura amèrement. » Dans ces passages-là, on peut voir aussi, il y a beaucoup de paroles que le Seigneur peut dire, mais il y a des gestes que le Seigneur fait qui parlent beaucoup. Ici, on peut voir l'apôtre Pierre, quand le regard, le Seigneur l'a regardé, ça devait être très dur pour lui. Tout ce qu'il avait dit avec arrogance, le Seigneur venait de remettre devant lui. Maintenant, il y a un autre passage dans Luc 23, passage qu'on connaît bien. C'est la repentance d'un malfaiteur. On va lire les versets 35 à 43. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres. Il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce verset-là, c'est les seules paroles que le Seigneur a dit. Mais c'est toutes des paroles. Ici, on peut voir deux malfaiteurs. Un qui est sauvé, le Seigneur lui pardonne ses péchés parce qu'il est repentant. Puis les deux malfaiteurs crucifiés de chaque côté n'étaient pas meilleurs l'un que l'autre. Ils étaient crucifiés là parce que dans leur vie, ils avaient fait des crimes, ils avaient fait des choses qui n'étaient pas correctes. Ils étaient crucifiés là parce qu'ils méritaient le jugement. Puis ici aussi, dans, dans ce passage-là, dans Marc 15, verset 32, les deux malfaiteurs l'injuriaient. Les deux. Mais seule la grâce de Dieu manifestée à la croix de Christ peut transformer instantanément un grand pécheur, l'amenant à la repentance par la foi. Le brigand repentant reconnaît la justice du châtiment qu'il subit, au verset 41, « Pour nous, c'est justice ». L'innocence du Seigneur, au verset 41, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Au verset 42, la divinité du Seigneur, il lui dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le verset, et la vie du Seigneur après le tombeau, verset 42 aussi. Le royaume après la croix, dont le Seigneur Jésus sera le roi. Le verset 42. La repentance du brigand à la croix. Dans les derniers moments de sa vie, il s'est repenti. J'aime la réponse du Seigneur. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, on peut voir quelle promptitude, ça veut dire quelle rapidité tu seras. Quelle certitude avec moi, quelle compagnie avec le Seigneur. Dans le paradis, quel repos. Le lieu de délice en compagnie de son Sauveur. Adam et Ève ont été chassés du paradis terrestre après la désobéissance dans Genèse 3, 23. Ici, le paradis est promis. Le paradis céleste est promis aux brigands repentants. Le Seigneur Jésus est crucifié entre deux brigands. Il aurait pu mettre les deux brigands, puis le Seigneur à côté. Non. Le Seigneur est crucifié entre deux brigands. Dieu l'a voulu ainsi. L'un est perdu, l'autre est sauvé. La société d'aujourd'hui encore. La croix aujourd'hui encore décide du sort éternel de tout homme. Aujourd'hui, c'est une journée de grâce que Dieu donne à l'homme de se repentir. C'est aujourd'hui le jour du salut. Hébreux 3, le verset 15. Demain ne nous appartient pas. Quand j'ai écrit ce message, j'ai fait ça un soir, puis là, il était rendu plus tard un peu, il dit, moi, écoutez une nouvelle. Quand j'ai écouté une nouvelle, il y avait un avion aux États-Unis, un hélicoptère, un accident, frappé en plein vol. Une explosion, terminée. La vie s'est terminée là. Pour ce monde qui était là, est-ce qu'il y avait des croyants? Je ne sais pas. Mais si les personnes n'étaient pas sauvées, c'était leur dernière journée. Ils n'ont pas pu se repentir. C'était trop tard. C'est encore la même chose aujourd'hui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous viennent à la repentance. Quand j'ai écrit ce message-là aussi, je pensais à la sœur à Lucie, Nicole. Elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ à la suite de sa maladie, la dernière journée avec la mort. Elle a confessé de sa bouche. Pour aujourd'hui, on entend des piqûres que le monde se font donner pour mourir. Si elle l'aurait fait, Dalton n'avait pas. Mais un exemple, si elle l'aurait, arrêté là. Après elle, ça ne veut pas dire que le Seigneur l'a sauvé, là. Mais il y a des personnes qui vont demander la piqûre pour ne pas souffrir. Mais s'il reste un mois de leur vie, s'il reste deux jours de leur vie, peut-être que c'est là que le Seigneur parle. La dernière offense. Je trouvais ça triste. L'homme qui a hâte de mourir, qui pense qu'il ne souffrira pas. C'est le contraire, il va souffrir pour l'éternité. Les péchés ne sont pas confessés sur la terre, ils s'en viennent avec toi. Tu vas rencontrer Dieu comme juge. Ça fait que c'est une décision très importante. Puis ça va faire 36 ans cette nuit que j'ai accepté prendre un respire. Ça fait 36 ans cette nuit que j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur. Le 10 mars 1989. À 3 heures du matin. C'est une journée qu'on n'oublie pas. Qu'on ne peut pas oublier. Que le Seigneur non plus n'oublie pas. Nos noms sont écrits dans les cieux. Ça fait qu'on va prier. Seigneur notre Dieu, merci de ce salut merveilleux qu'on a en toi, Seigneur. Cette assurance certaine et véritable que tu nous attends avec toi dans les cieux pour l'éternité. Merci pour ta parole qui est là, qui nous confirme, qui nous dit encore, aujourd'hui, c'est le jour du salut pour le monde qui sont autour de nous. Et on veut te prier pour eux, Seigneur notre Dieu, que tu puisses les sauver. Merci pour tout et merci encore pour ton Fils, bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ, en qui tu as mis toute ton affection. Amen.